J'entre peut-être.
Ah, vous m'avez dit d'entrer, c'est Nicolas de Radio Déclic.
Ah oui, vous, ben, il fallait rentrer pour.
D'accord, rentrer bonjour.
Hop. Vous fermez la porte.
Je referme la porte.
À clé pour que les gens nous abonnent. Vous avez vu la bonne?
Oui, alors elle ne veut pas parler. Elle a dit qu'elle était un peu fatiguée,
oui,
un peu énervée ces temps-ci, donc elle n'a pas envie.
Vous avez retourné un coup de clé?
Oui, tenez.
Oui,
là, c'est fermé à clé.
Oui, on aurait attendu la bonne, mais comme elle
ne
vient.
Non, elle ne veut pas. Alors, vous êtes une fidèle auditrice de RTL.
Ah oui. C'est bon, toujours dessus.
D'accord. Alors si ça ne vous dérange pas pendant notre conversation, on va le couper.
On l'avait, tout simplement. D'abord, c'était fini.
Vous écoutiez les auditeurs ont la parole.
Oui, j'aime bien ça. On va là-bas.
On se met où vous voulez. Le salon à côté.
Parce que côté, ici, c'est le comptoir. C'est mon souk.
Donc j'ouvre cette porte.
Ouvrez la porte, vous entrez et vous vous installez.
C'est une maison typiquement lorraine, non? Tout en longueur.
Ah oui, avec les alcôves, avec.
Vivre ici, Favière.
En tout cas, merci de me recevoir dans votre salon, Hélène Rouillère. On va commencer simplement. Vous allez me donner votre date de naissance.
9 juin 1918.
Vous êtes née où?
À Favière.
De parents eux-mêmes nés à Favière.
Oh oui, de parents, grands-parents et grands-grands-parents, oui.
On vit à Favière depuis combien de générations dans la famille Rouillère?
Ça, je ne peux plus vous dire, mais il y en a, ma foi, oui. Oui.
Ce n'est pas votre nom de jeune fille, Rouillère.
C'est Royer.
C'est Royer.
Oui, j'ai eu un U en plus, avec mon mari.
Ah, votre nom de jeune fille, c'est Royer. Vous avez rencontré un monsieur Rouillet ou Rouillère?
Voilà, oui.
Comment dit-on, Rouillet ou Rouillère?
Ben, avant, on disait Rouillère. Maintenant, on dit Rouillet. Je ne sais pas pourquoi, c'est changé. C'est comme ça, quoi. Oui.
Donc, ça fait plusieurs centaines d'années que votre famille est installée dans cette commune?
Oui. Oui.
Que faisaient vos parents à Favière?
Lesquels?
Votre papa et votre maman?
Papa, maman, ils étaient cultivateurs.
Et le papa et la maman de papa?
Le papa et la maman de papa, alors, ma grand-mère paternelle, elle était modiste. Et puis ma grand-mère maternelle, donc ils avaient une culture aussi, voilà.
Et vous vous souvenez de ce qu'on faisait encore avant, de ce que faisaient vos arrière-grands-parents?
Oh ben parce qu'ils m'ont expliqué tout, parce que j'avais des grands-mères qui m'expliquaient tout comme la vie était avant, comme tout. Mes grands-mères, j'en ai un souvenir de plus que de mes parents. Mes grands-mères étaient tellement pour nous... attentive et tout, elle nous aimait bien, puis elles étaient toujours chez nous, la vie n'était pas pareille. Les grands-mères restaient dans la famille. Alors on était élevés avec elles. Et comme c'était elles qui s'occupaient, ben, ma foi, on était plus avec les grands-mères qu'avec les parents.
Parce que les parents travaillaient.
Mais les parents travaillaient, oui, naturellement. Oui. Ils avaient une culture, ben, ils étaient souvent soit dans les champs, soit, vous voyez. Oui.
Quels sont vos plus vieux souvenirs d'enfance?
Ben, d'étant toute petite.
Vous vous souvenez de quoi en particulier?
Eh ben, je me souviens que j'ai été malade. Je me souviens du docteur qui m'a fait des piqûres dans le ventre. Je me souviens, mais j'étais toute petite. Mais j'en ai un souvenir. Un souvenir d'être dans le berceau encore au pied du lit de maman.
Et vous vous souvenez de jeux d'enfance, de camarades de jeu,
oui,
de l'école?
Oh là là, oui, ça c'était le bon temps. Oh, que c'était bien, oui. On s'amusait avec peu de choses parce qu'il fallait faire son jeu. Si, par exemple, on jouait au palac qu'on appelle la marelle maintenant, eh bien, on avait notre jeu, tous comme ça. On jouait à la balle, vous savez, des balles, deux ou trois, ça dépendait comment on était. On jouait à la corde, on jouait... Et puis beaucoup, on jouait sur un mur. on avait chacun une famille. Hein. Alors, j'avais beaucoup... parce que chez mes parents, là-bas, en face, il y avait une culture et il y avait Jeanne, qui était à peu près de mon âge. Et nous étions toujours une chez l'autre, ça. Et voilà comment on a joué beaucoup avec elle, oui.
Vous aviez des frères et sœurs?
Oui. J'ai une sœur et deux frères. La famille était très unie chez nous, elle est toujours d'ailleurs, hein, parce que même encore maintenant, ça continue. Je suis contente que ça continue comme ça, parce qu'on a toujours été dans la famille, c'était uni, c'était même des cousins qui étaient de loin, on se recevait, quand des cousines arrivaient, c'était vraiment la fête, c'était tout quoi.
Quand vous dites de la famille qui vivait loin, c'était en Lorraine ou encore plus loin ?
Oh ben non, j'avais une cousine de papa qui était institutrice à Paris, oui, rue d'Alésia, enfin. Elle était institutrice. Elle venait passer ses vacances à Favières, mais c'était parents de loin avec papa, c'était des cousins, je ne sais plus comment, enfin c'était... Je n'ai même pas su comment, parce que je ne m'intéressais pas. Alors quand elle venait, c'était la fête, c'était tout. On avait des autres cousines, de mon père aussi, Pauline Lorange, qui étaient des cousins, mais assez loin. Mais on se recevait toujours. C'était vraiment la fête, quand on arrivait, c'était... Oh oui, elles aimaient bien de venir à Favières. Et quand je suis partie à Paris pour apprendre ma couture... Eh bien, c'est chez ma tante Pauline qui m'a pris avec elle, qui m'a pris chez elle, tout ça. Quoi.
Vous aviez quel âge quand vous êtes allée à Paris ?
Quel âge que je pouvais avoir ? 13 ans, quelque chose comme ça, 13-14 ans.
Donc, au tout début des années 30 ?
Ah oui ! Eh bien, écoutez, c'est bien simple. Quand c'était en 1931 qu'il y a eu la... Oh, comment ça s'appelle ? L'exposition coloniale. Il me semble que c'était en 31. Eh bien, c'est là que j'étais. Oui, oui, oui.
Hélène a décidément une très bonne mémoire, puisque c'est bel et bien en 1931 que s'ouvre à l'est de Paris, dans le bois de Vincennes, une première exposition coloniale. Nous sommes en fait le 6 mai 1931. Et les dirigeants de la Troisième République veulent, avec cette manifestation festive, convaincre l'opinion publique du bien fondé des conquêtes coloniales. Ils séduiront le public. Quant à le convaincre, là, c'est une autre histoire. Et quand la petite histoire rejoint la grande histoire, on en arrive à des situations presque cocasses. Sachez que le ministre français des colonies, Paul Reynaud, a inauguré en fanfare cette exposition coloniale en compagnie du président de la République Gaston Doumergue et surtout du commissaire général de l'exposition, l'illustre maréchal Hubert Lyautey, qui vivait à quelques kilomètres seulement de notre amie Hélène, puisque si vous passez à Thoré-Lyautey, vous pouvez visiter le château du maréchal. Château impressionnant et intéressant en plus d'un titre. Je vous recommande au passage le salon de thé marocain. Hubert Lyautey vivant donc à quelques kilomètres d'Hélène Rouyère quand la petite histoire rejoint la grande. Et nous retrouvons Hélène donc dans sa charmante demeure au centre de la commune de Favières. J'imagine le choc pour une jeune adolescente qui arrive à Paris dans les années 30, qui vient de Favières.
Toute heureuse. Vraiment, c'était... Et nous allions à l'exposition. Je m'en régalais, moi, cette exposition. C'était vraiment bien.
Vous en preniez plein les mirettes, en fait.
Oh oui. Puis j'étais contente parce que quand je suis rentrée à l'atelier... Bon, ben ma foi, je savais coudre, je savais bien faire des... Comment qu'on appelle ça, donc des aclos, des boutonnières, très très bien. Alors elle m'avait mis là. Et puis, quand elle a vu que je savais comme ça, elle m'a dit, on va... Alors, je faisais le vacatou, c'est-à-dire le vacatou, la dernière qui arrive, elle fait le lundi, elle nettoie les machines, vous voyez, ça, oui, pour tout préparer.
Vous vaquiez à tout, en fait,
ça ? Oui, et j'étais contente comme tout. Et ce qu'il y avait, on emmenait le travail chez les brodeuses et on allait les rechercher. Et c'était nous qu'on était les dernières, là, qu'on était obligés d'y aller. Et j'étais heureuse comme tout, parce qu'on nous donnait un ticket de métro, vous irez ici, vous irez là, et toute seule, je me débrouillais. Moi, j'étais heureuse comme tout.
Vous aimiez la vie parisienne ?
Ah oui, et puis tout m'était neuf, tout était attrayant, mais la vie n'était pas comme maintenant, il faut dire que Paris, c'est plus Paris de maintenant. Non, non. Je n'irai plus à Paris maintenant, vous voyez. On peut plus, on pourrait plus voyager la nuit comme on a fait, qu'on allait, on allait au cinéma aussi bien, on rentrait à plusieurs, nous étions tout le dans les, il y avait beaucoup de monde à l'atelier, hein, des ouvrières, tout ça. On sortait tout ensemble. Et quand on avait quelque chose à faire, on sortait tous ensemble. Maintenant, on rentrait aussi bien à minuit, 1h du matin, avant le dernier métro. Hein. Et ça, on ne le ferait plus maintenant.
Vous êtes resté combien de temps à Paris ?
5 ans.
Une période très agréable de votre vie, donc.
Oui, oh oui, oh oui, oh oui.
Et donc, pourquoi vous êtes revenu à Favières vers l'âge de 18 ans, si je comprends bien, pour épouser quelqu'un ?
Demandez pourquoi, hein ? En 39, qu'est-ce qu'on faisait ? En 39, je suis revenue ici en vacances, comme tous les ans. J'avais le mois d'août.
Ah, ça fait plus de 5 ans. Alors, si vous êtes arrivé au tout début des années 30 et que vous êtes revenu en 39, c'était 8 ans plus tard. Oui, donc, vous aviez 20, 21 ans.
J'ai eu des... Comment qu'on appelle ça ? Des coupures aussi. Hein. Alors, il y avait... Comment je veux dire, pour revenir, que le jour qu'on est rentré, ben c'était, on rentrait pour le mois d'août, au mois de septembre, le 2 septembre, la guerre est arrivée. Un coup de fil de l'atelier, comme quoi qu'il s'en allait, que, ben oui, il déménageait, c'est comme tout. Hein. À Paris, en 39, tout le monde est parti. Hein. Mmh.
Vous aviez perdu, en fait, votre travail.
Ben, on a perdu tout, quoi.
Vous viviez où, à Paris ? Dans l'atelier, près de l'atelier ?
Oh non, c'était loin, j'étais chez ma tante. Hein.
C'était dans un quartier de Paris, loin de l'atelier, en tout cas.
Oh, oui, c'était loin de l'atelier, oui. On prenait le métro.
S'il n'y avait pas eu la guerre, vous vivriez peut-être toujours à Paris.
J'aurais resté là-bas. Hein. Il n'était pas question que je rentre, parce qu'on y avait tous nos... On avait les sports, on avait tout ça, tout. Ma vie était partie là-bas. Et tout le monde, on connaissait tellement de monde. C'était la vie était partie là-bas, et puis ma foi, tout a été éboulé par la guerre, comme beaucoup de choses. Oui.
Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes revenu ici, donc déjà période de guerre, vous aviez perdu votre travail?
J'étais chez mes parents, hein. J'étais pas toute seule. J'étais chez mes parents, mais ma foi, j'ai attendu, j'ai dit comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Ça me disait rien du tout de faire la culture, mais absolument rien du tout. Hein. D'abord, j'y connaissais rien, et puis non, ça ne me disait rien. Faire la couture, il fallait trouver. Alors, il y a une personne qui m'a dit, mais dites donc, il y a Madame Baloufaux, là, qui est évacuée de la Moselle. Elle est ici, comme couturière, elle fait de la couture, elle prend des petites jeunes filles comme ça. J'étais lui demander, elle m'a prise tout de suite, et voilà, comme ça que ça fait. Alors, j'étais ouvrière, j'ai gagné ma vie comme ça, là. Tout en étant chez mes parents.
Et vous travaillez où exactement ?
Chez la couturière.
Chez la couturière, vous alliez chez la couturière travailler ?
Oui. Ben, c'était dans le même village, hein, c'était tout près. J'avais une bicyclette, on allait en bicyclette, et puis voilà, quoi.
Et ouais. Ça a duré comme ça tout le temps de la guerre ?
Non, parce que je me suis mariée en 44. Alors, ma foi.
Et votre mari faisait quoi ?
Boulanger.
À Favières ?
À Favières, oui, c'est comme ça que je l'ai connu.
Il y avait combien de boulangers à Favières ?
Ben, il y avait 2 boulangers, oui. Mais avant, je parle de Favières d'avant, il y a eu 3 boulangers, il y avait un boucher, c'était un pays de, comment je veux dire, d'artisans et de commerçants.
Il y avait plus de vie à Favières. C'était plus animé, j'imagine.
Oh, tout le monde était... Oh oui, c'était vivant. Oh là là. Les rues, vous pensez, c'était ou des chevaux ou des gens à pied, parce qu'il n'y avait même pas de vélo. C'était comme ça quand... Oui,
Ah, vous m'aviez dit que vous aviez un vélo, vous.
Ah ben oui, mais ça, c'était longtemps après, hein, ça. Moi, je vous dis ça, c'était...
Vous parlez de Favières d'avant, encore.
Oh, ben oui, ben, vous me demandez,
oui, Favières d'avant. Vous me répondez, vous avez bien raison.
Alors voilà... Oui, Favières avant, c'était pas du tout pareil, non.
Vous gardez d'autres souvenirs de cette période douloureuse entre 1939 et 1945 à Favières ?
Bon, pas tellement, parce que... il y avait beaucoup d'évacués, hein, des gens qui mettaient leurs enfants ici ou bien qui revenaient à la campagne.
Parce qu'on était relativement à l'abri, finalement, à Favières.
Oh, on n'était pas à l'abri, on a eu des bombes. Hein. On a été bombardés, aussi on a été bombardés. Mais...
Et les Allemands sont passés à Favières ?
Il paraît que ce n'était pas les Allemands, il paraît que c'était des Italiens. Alors, ma foi, je ne peux pas vous dire, hein, je n'étais pas dans l'avion. Mais on a eu des... Sur l'église, ça a été fracassé, hein, l'orgue. Les tuyaux d'orgue étaient pendés comme ça quand on est rentré. Et dans la maison à côté, chez Madame Robinet, il y a eu des tués sur le grenier. Et...
Suite au bombardement. Donc apparemment des bombardements italiens.
Exactement, ici ils ont pris le village, puisque c'est difficile à bombarder ici, parce que c'était qu'un machin. Ils ont, les bombes ont tombé comme ça dans les jardins, mais tout aurait été sur des gens, mais il y aurait eu des morts. Hein. Alors des morts, j'ai connu qu'un mort qui était sur la route de Sausserotte. Il y en a eu deux sur la place, et puis ceux de chez Robinet. Voilà.
Et les Allemands sont passés à pied, par contre, ici.
Les Allemands sont venus après, hein, bien après, oui. Ben, le jour que les Allemands sont venus, oui, je me souviens, j'étais en train de tricoter sur le banc, là, chez la tantine, là, devant chez nous, là. Et puis, j'ai vu qu'ils... J'ai dit des drôles de machins, oui, ça faisait un bruit formidable. Je n'ai pas bougé, j'ai dit, je ne bouge pas, je vais voir ce qui va se passer. Ils sont passés, ils n'ont rien dit. Il paraît que c'était des SS. Ils n'ont rien dit, ils n'ont rien demandé, rien du tout. Ils sont passés, ils sont passés. Ben oui, Favière, on n'a pas eu beaucoup de... Comment je veux dire, de représailles, de trucs comme ça.
Heureusement.
Oh oui, parce que dans les pays à côté, je vois Barizé, là, il y a eu vraiment... Et à côté, là, Outreville. Outreville, c'était... Les Allemands qui remontaient là, sur la route de Treville. Et ils sont rentrés dans un café, et puis ils ont pris les jeunes qui étaient dans le café, ils en ont pris, ils les ont emmenés devant le cimetière, ils les ont fusillés là. Et il y en avait un qui arrivait après, qui se demandait bien qu'est-ce que c'était, mais ils l'ont pris, ils l'ont fusillé. Oui. Je connaissais une des familles de ces garçons-là, oui. Oh oui, ça a été terrible, là, oui.
Ensuite, j'imagine que les Américains sont passés à leur tour.
Les Américains, comment ça s'est passé? Je ne m'en souviens plus très bien, les Américains. Oh, ben si, ils venaient. Alors, on n'avait rien à manger, c'était dans les moments où il y avait les cartes, vous savez qu'on n'avait rien, mais eux, ils avaient quelque chose. Ils venaient, ils nous donnaient des chewing-gums, ils nous donnaient des tas de choses comme ça. Et je me souviens qu'on a été ils logés dans le bois de Slincourt. Et puis avec mon mari, on était mariés à ce moment-là, ma foi, on a été leur porter des pommes de terre, hein, pour voir s'ils connaissaient tout ça, ils connaissaient. Ils ont pris les pommes de terre et puis nous ont redonné des tas de chocolat, des tas de trucs. Je me souviens de ça, oui, oui.
On ne devait pas manger du chocolat tous les jours à l'époque.
Oh, on ne savait même plus le goût que c'était, le chocolat, parce que ce qu'on avait, ce n'était pas du chocolat, c'était de l'ersatz, c'était... Ah ben, on avait des tickets, oh là là, mon Dieu, les tickets. Quand il en manquait, oh, yo, 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 yo. Oh oui, oh, ça a été dur, dur, dur. Et encore, nous étions à la campagne. Nous avions encore des lapins, des poules, des choses comme ça, quand il y avait des...
Et puis votre mari étant boulanger, c'était un peu plus facile à ce niveau-là pour vous aussi, non?
Pour nous, oui, pour avoir du pain, oui, oui, oui. Ce qu'on a manqué, c'est plutôt l'huile, c'était tout, quoi. L'huile, le beurre, tout ce qui était...
Et si on remontait quelques années en arrière, on pourrait remonter à nouveau dans votre enfance.
Oui.
J'aimerais qu'on parle de l'école.
Oh, l'école.
Nous sommes dans les années 20.
Oh, l'école. J'aimais bien l'école. Les années 20. Ben, les années 20.
Je me souviens, on a déjà eu l'occasion de discuter ensemble, oui. Et vous me disiez que vous appreniez vos leçons en chanson, en chantant.
Ah, c'était grand-mère, ça, c'est pas à l'école.
Ah, c'était avec grand-mère. On apprenait des choses avec grand-mère, alors.
Oh, ben grand-mère, elle m'a appris beaucoup de choses, parce que son école à elle, de grand-mère pensait que c'était vieux, hein, son école à elle, tout était pour le...
C'était l'époque de Jules Ferry, votre grand-mère.
Oui, alors tout était pour la mémoire, fallait retenir. Alors ils avaient une bonne mémoire, alors c'était en chantant, toujours en chantant, ah oui. Elle m'a appris... grand-mère, c'était... On jouait toujours avec elle. C'était toujours des jeux. Alors, on joue. Alors, elle me dit, on va faire des tables, on va jouer aux tables. Alors, laquelle qu'on prend. Alors, on prenait le 7, 7 fois 1, 7, 7 fois 2, 14, ainsi de suite. Hein, comme ça, toutes les tables y passaient. Je savais mes tables quand je suis rentrée à l'école. Et pour... c'était tout en chansons aussi, grand-mère. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de chansons pour retenir. Oui.
Allez, un exemple. Chantez-nous une de ces chansons, Hélène.
Les Pyrénées orientales, le chef-lieu c'est Perpignan, Toulouse, la Haute-Garonne, et le Var c'est Draguignan. On avait toute la France comme ça.
Et pour la Lorraine, ça donnait quoi?
Ah, pour la Lorraine, je ne sais pas. Non, je ne vois pas. Ah, mais je ne me souviens pas. On avait toutes les... Je les ai appris, mais je ne me souviens plus, comme de beaucoup de choses que je ne me souviens pas.
Donc, on revient à l'école. Quelques années plus tard, après grand-mère, l'école. Ça se passait comment, là? Vous aimiez beaucoup? Me dites-vous, pour quelle raison?
À l'école, il y avait... Oh, c'était bien, parce que nous avions des instituteurs, à ce moment-là, qui allaient en retraite. Alors, elle, c'était une femme, elle avait eu 5 enfants, je crois, Madame Chollet. Et on était avec elle comme si on était avec nos mamans. On était à l'école comme ça. D'abord, on nous apprenait par nos prénoms. C'était nos prénoms. Alors, ça, c'était quelque chose. Et ils étaient des anciens instituteurs. C'était encore 90, 70. Et il a fallu reprendre tout ça quand on a changé d'instituteur. Alors, oh là là, ça a été dur. Oh, que ça a été dur, ça.
Vous êtes restée à l'école jusqu'à quel âge?
Oh ben jusqu'au certif, et puis c'est tout. Une fois le certif, on partait.
Le certificat d'études, c'était vers 11-12 ans?
12 ans, par là, oui, oui. 11-12 ans, oui, oui.
Donc, après le certificat d'études, vous rejoignez votre tante à Paris.
Oui.
Arrive la guerre, vous revenez, vous rencontrez votre mari. Vous le connaissiez peut-être depuis quelques années déjà?
Oh, ben je l'avais connu petit parce qu'il venait avec son père. Son père, c'était le copain de papa. Alors, ouais, mais c'était du petit peu ma foi. On était jeunes, on ne s'occupait pas l'un de l'autre, hein, comme ça. C'est qu'une fois qu'il a été là, qu'il est venu. Oui.
D'accord. Et qu'il vous a tapé dans l'œil?
Il est venu m'apporter des cerises.
C'est gentil.
Oui, et puis après, ben, il est venu, mais ma foi, voilà, comme ça qu'on s'est connus, comme tout le monde, quoi. Oui.
Et voilà. Donc, on va passer les années, là. Donc, la guerre est terminée, votre mari est toujours boulanger, vous-même, vous êtes toujours couturière?
Ben oui, j'ai continué, oui, oui, oui. Jusqu'au jour où, c'est pas le jour, c'est... Tout a changé. On ne trouvait plus de magasins pour... les magasins qui vendaient du tissu sont partis les uns après les autres, ils ont fait du prêt-à-porter. Hein? Vous voyez un petit peu le prêt-à-porter, ça a été. Mais ma foi, je ne faisais plus de la couture comme je faisais. Alors, on m'apportait beaucoup de retouches à refaire parce qu'ils prenaient, ils allaient acheter là-bas et puis ils faisaient faire les retouches à moi, comme ça. C'était plus pratique parce que je n'avais pas besoin de couper ni de rien du tout. C'était comme ça.
Vous avez travaillé jusqu'à quelle période de votre vie?
Jusque quand j'ai vu Claire. Une fois que mes yeux sont partis, ben ma foi, tout est parti avec.
Donc, jusqu'à il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années?
Une dizaine d'années que ça a commencé, oui, oui, oui.
Vous avez travaillé très longtemps.
Oh ben, je vais vous dire que j'avais pas loin de 80. Je ne me sentais pas vieillir. Et puis, un jour, j'ai eu une embolie pulmonaire. Alors, c'est tout qui a fichu en l'air, tout. J'ai fait 3 mois d'hôpital, après ça a été... Oh, ça n'a plus été depuis là, non. Tout que j'ai perdu mon fils, ça a été la grande débandade. Ouais.
Vous avez combien d'enfants?
4, 3 filles, 1 garçon.
Ce qui doit vous rendre heureuse aujourd'hui encore, ce sont, j'imagine, quand même vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants et vos arrière-arrière-petits-enfants.
Ils sont très gentils. Très, très bien, tous très bien, qui élèvent bien leurs enfants. Ils sont tous bien placés, tous, ils ont tous du travail. Alors, et puis, j'ai une fille qui travaillait à Paris, comme elle était infirmière. Ils sont revenus en retraite ici à Aycourt. Ça fait qu'ils viennent.
Oh, mais ils sont tout prêts, ça doit vous faire plaisir.
Ils sont tout prêts. Et puis j'ai une autre fille, mais qui travaille encore. Alors Josette, elle travaille, elle habite à Monté-Octroi, vous savez, juste en face de l'Octroi. Et les plus loin, ce sont ceux, j'en ai une qui est au Baléares. Ça, oh là là. Alors, ils vont venir.
Elle vit au Baléares ?
Et ils vivent là-bas, elle a ses enfants, ses petits-enfants qui sont là-bas, elle a toute sa vie là-bas maintenant.
Vous ne devez pas les voir souvent, malheureusement.
Ben non, tous les ans, ils viennent quand même, hein, oui.
Des mots, des phrases qui ne font grossir que de l'âme. J'ai plus envie d'écrire une chanson d'amour à l'aspartame. Sentiment light, édulcorant, je n'ai jamais été très fan. D'émotion à 0% d'une vie sous cellophane. Les queues de joie, les quignons de peine, on les met quand même. Relever le goût, la saveur, pas d'amour artificiel. Retrouver l'appétit du bonheur, pas de régime sans elle. Plus d'étreinte, de ferveur à la diète, pas d'embrassade au régime. Nulle intention d'affiner les silhouettes, de partie de pêche à la ligne. J'ai les yeux plus gros que le ventre, la tendresse en étendard. Mettre l'enthousiasme au centre du cœur dans les épinards. Les trognons d'extase et les miettes, jamais on les jette. Relever le goût, la saveur, pas d'amour artificiel. Retrouver l'appétit du bonheur, pas de régime sans elle. Relever le goût, la saveur, pas d'amour artificiel. Retrouver l'appétit du bonheur, pas de régime sans elle. À feu doux, les souvenirs du mois d'août. Laissez reposer les malentendus. Servir en salade les fruits défendus. Si ça tourne au vinaigre et que ça fermente, mélangez les lèvres au diabolo menthe. Relevez le goût, la saveur, pas d'amour artificiel. Retrouver l'appétit du bonheur, pas de régime sans elle. Relever le goût, la saveur, pas d'amour artificiel. Retrouver l'appétit du bonheur, pas de régime sans elle. Pas de régime sans elle.
On pourrait peut-être s'intéresser au village de Favières à présent, puisque vous êtes né à Favières. Il y a certainement beaucoup de choses à raconter. Il y a par exemple un presbytère ou un ancien presbytère.
Oui, le presbytère. Ben, c'est dommage qu'elle vous n'est pas là, elle vous aurait expliqué ça.
Yvonne Bagard, donc, qui malheureusement donc, n'est pas là. Pourquoi elle connaît bien le presbytère?
Elle habite au-dessus, oui.
Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire, vous?
Du presbytère, ben, c'était une maison de la commune. Hein, c'était à la commune. Et puis, on a eu nos curés, comme toujours, quoi. Ils venaient, ils partaient, ils revenaient, ils repartaient. Et puis, le dernier qu'il y a eu, le père Auburtin, c'est dommage que ça s'est passé comme ça. Il croyait rester à Favières, il croyait rester là, parce qu'il était vieux, hein, il était très vieux, mais il allait toujours avec sa voiture. Il était vieux, mais il allait toujours à la piscine, tout ça. Vraiment, il était resté... c'était un homme qui avait la tête, parce qu'il était sorti deuxième de centrale. Pas centrale de la prison, centrale... La... c'était une tête, hein, vraiment une tête. Et quand il s'est vu dans le presbytère, là... Il a fait des transformations, mais c'était lui qui les faisait. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour remettre quelque chose. Hein. C'était lui qui faisait tout. Et il a donc fait un train. Il a pris parce qu'il y avait beaucoup de place, beaucoup de chambres. Il a pris une chambre du haut pour faire un train. Mais alors, il fallait voir le train. C'était tout du... Comment c'est qu'on appelle donc ?
C'est une miniature qu'il faisait.
Papier, comment c'est qu'on appelle donc ?
Papier mâché ?
Non, le papier rocher, qui imite le rocher, quoi, tout ça.
D'accord.
Et il avait un train. C'était pas un, c'était plusieurs trains qui s'en allaient. Alors, il y en avait qui partaient en Allemagne, alors il fallait passer la douane, tout ça. Il y avait au moins...
Donc, avec des paysages, des montagnes.
Oui, oh, oui, c'était très intéressant. Et tous les enfants allaient là, c'était vraiment... Oh oui.
C'était à quelle époque ?
Ben, il n'y a encore pas tellement longtemps. Hein. Il n'y a pas longtemps qu'il est mort.
Il est mort quand ?
Je ne sais plus, il y a peut-être 2-3 ans. Vous savez, le...
Ah, c'est assez récent, alors.
Le truc de maintenant, moi, ça me...
Vous vous souvenez plus facilement de votre jeunesse ?
Mais j'ai plus de mémoire du vieux temps que de maintenant. Beaucoup plus.
C'est assez logique, finalement. On se souvient des bons moments passés auxquels on a eu le temps de repenser,
On enregistre. Hein. Et moi, ça n'enregistre plus.
Et ce qui est enregistré est bien enregistré. C'est ça ?
Alors, ce qui est enregistré, c'est toujours vierge, comme on peut dire. Mais ce qu'on vient de faire...
La mémoire vous joue des tours.
Oh, mais ma mémoire, elle part avec moi.
Vous êtes difficile avec vous-même, car je suis sûr que vous allez pouvoir me raconter plein de choses sur les boutons de nacre, les boutons en nacre.
Les boutons. Oui, 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 les boutons. Eh bien, les boutons en nacre, c'était... Bon, c'était du temps de maman, ça, c'est vieux, hein, ça.
Début du XXe siècle. Hein.
Oh, oui. Alors, tout le monde, ils avaient des machines pour faire les boutons. Il y avait les boutons, mais enfin, ça, c'était des, comment qu'on appelle ça, en nacre. C'est de la nacre. Alors, ils trouvaient les nacres et ils faisaient des boutons. Et à ce moment-là, ils faisaient toujours des boutons, comme ça, des boutons incurvés. Et il y a les biseaux, on est appelé les biseaux pour ça, parce qu'ils ont trouvé une machine, enfin, à eux, pour faire les boutons qui s'étaient récurvés. Vous savez qu'il y avait un rebord en dehors, qui était tout moderne, tout nouveau, quoi. Et on les a appelés les biseaux à cause de ça, parce qu'il y avait plusieurs Thomassins, alors c'était les Thomassins biseaux. Et ils ont fait comme ça. Alors, les boutons étaient faits. Il fallait les mettre en carte. Alors, ils avaient une plaque de carton. Ils mettaient du paillon, comme on appelait du paillon. C'était un gros papier d'argent. Et les enfants cousaient les boutons. Et quand les cartes étaient faites, eh bien, ils les vendaient à Mirecourt. Ils emmenaient ça à Mirecourt. On avait le train à ce moment-là.
Donc, en fait, c'était fait chez les particuliers. Il n'y avait pas vraiment de fabrique localisée à Favières.
C'était chacun faisait son truc.
Oui. Et on vendait ça à Mirecourt, alors.
Ils vendaient ça à Mirecourt, oui, oui.
Il y a eu des personnalités à Favières. Des gens qui sont devenus relativement célèbres. Je pense à M. Bottin.
Ah oh ben, l'abbé Bottin, ben oui.
Gerbévillé. À la base.
Non, c'est pas Gerbévillé, c'est Grimonvillé.
Grimonvillé, pardon.
Grimonvillé, oui, bah oui, il y a toujours sa maison qui est là. Hein. Mais à ce moment-là, c'était la bataille de l'église. Vous savez, il y avait les prêtres réfractaires, les autres non réfractaires. Ainsi, ça se bataillait.
Je me souviens pas. Expliquez-moi.
Ah ben, moi je n'étais pas là. Hein. Je peux pas vous dire. Mais je sais que ça a été, d'après ce que j'ai lu, d'après les récits, ça a été vraiment... c'était dur par moment, quoi. Et puis...
Et l'abbé Bottin, il est passé à Favières.
Ah ben, il était curé de Favières.
Voilà.
Oui, oui. Et puis ensuite, il est reparti, il a été à Paris. Ça ne lui a pas plu, ça. Et il a fait son bottin. Et voilà.
L'annuaire, en fait.
L'annuaire, oui, oui.
Il y a eu d'autres personnalités qui sont passées par Favière ?
Des autres personnes ?
Des gens qui sont devenus plus ou moins célèbres ou qu'on connaît bien dans cette commune ? Ce n'est pas une obligation, je demande à tout hasard.
Je ne vois pas. Il y avait M. Denis qui était directeur des mines de la Sarre, puis qui est venu à Favière à sa retraite. Il y avait des Tibaliers, c'était les anciens nobles, mais c'est venu en décadence.
Justement, vous qui avez passé pratiquement toute votre vie à Favière, vous avez vu ce village changer au fil des décennies, au fil des années. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, Favière est vraiment en train de changer et malheureusement, ça va peut-être dans le mauvais sens, la vie n'est plus comme avant?
Ben oui, maintenant, quoi. C'est-à-dire, ça a tenu le coup. Jusque, on avait une scierie et une usine qui employait beaucoup de monde. Et cette usine-là a été vendue, ça a été racheté, ça n'a pas marché. Tout a été vendu et maintenant, tout est vendu. Oui. Alors là, il n'y a plus rien.
Et c'est plus ou moins en train de tomber en miettes, là.
Ça tombe en miettes, il y a des gens qui vont chercher tout ce qu'on peut voir maintenant, du fil de fer, du cuivre, tout ça, tout ce qui les intéresse là-dedans. C'est vraiment l'orgie de tout ça. Quand on voit ça, ça me dépasse quand on a connu Favière comme c'était et qu'on le voit maintenant, mais ce n'est plus rien du tout, c'est tombé pire que je ne sais quoi. Voilà.
C'est le cas de toutes les petites communes, finalement.
Oh non, pas toutes les petites communes, ma foi, non. Plus ou moins, mais ça vivait vraiment. On vivait vraiment par nous-mêmes. C'était...
Ce que je veux dire, c'est qu'il est rare qu'aujourd'hui, les gens vivant dans un village puissent y travailler. Ça a été le cas pour de nombreuses personnes à Favière.
C'est-à-dire, à Favière, tous les jeunes qui faisaient des études ne sont pas rentrés à Favière. Et tous ceux qui n'avaient pas le moyen intellectuellement de faire quelque chose, eh ben ils allaient à la scierie, ils allaient à l'usine, ils gagnaient leur vie comme ça.
Et on était heureux car il faisait quand même bon vivre, et il fait toujours bon vivre à Favière.
Oh ben moi j'aimais bien Favière, il faisait bon vivre. D'abord, notre quartier, enfin, je ne dis pas que c'est partout pareil, mais notre quartier est resté encore dans l'esprit de dans le temps, l'esprit... qu'on s'aide, tout ça, parce qu'avant, on s'aidait. Alors, je suis dans un quartier, un bon quartier, j'ai des bons voisins, de tout. Oui. Je suis gâtée pour ça. Je suis gâtée.
Au bout de votre quartier, il y a un endroit dont on n'a pas parlé et qui est très intéressant, pourtant, c'est l'ancien cimetière.
Ah oui, vous n'avez pas été au vieux cimetière ?
J'y suis allé, suite à vos conseils, et j'ai trouvé l'endroit... Je ne sais pas si on devrait employer ces termes, mais je l'ai trouvé très beau.
Ah, c'est très beau, oui, oui, oui. Parce qu'on a une vue depuis là-haut. Exactement. Vous avez vu la vue qu'on a depuis là-haut. C'est dommage que tous les arbres ne sont plus là, parce que c'était...
Il y a des arbres magnifiques. Hein. Oui, mais pourquoi a-t-il été abandonné, ce cimetière ?
Ben parce qu'ils ont... Vous savez, quand vous aviez un mort à la Neuvelle... Et qu'il fallait le monter tout en haut, là-haut, à bras, puisque c'était sur l'épaule qu'on...
Effectivement, il faut grimper un peu.
Alors, vous vous rendez compte du travail que ça faisait? Il s'arrêtait à l'église pour faire l'enterrement. Et puis, alors oui, il repartait là-haut. Moi, je trouve que c'était... Et alors, ils ont dit, c'est pas comme ça. En 1912, en 1912, ils ont dit, c'est plus pareil, on ne peut plus en faire ça. On va faire un cimetière à Favière.
On pouvait bien faire cet effort.
En bas, vous l'avez vu.
Le cimetière en bas.
Oui, le cimetière en bas. Et chaque fois qu'il y avait un mort, les gens déterraient les morts de là-haut pour les remettre là, ou du moins ce qui en restait. Alors voilà.
Voilà l'histoire de l'ancien cimetière de Favières.
Oui, mais il reste encore des tombes, il reste encore pas mal de choses là-dedans. Mais...
ça ne vous a jamais manqué, la vie parisienne, vous qui avez goûté donc à la vie de la capitale et qui êtes revenu à Favières.
Aussi, oh là là, mon Dieu, oui. Oui, puis on était, c'est-à-dire qu'on était dans un atelier, on était beaucoup, on était bien ensemble, c'était une bonne ambiance. On était là, ça a été les meilleures années de ma jeunesse, là.
Et si c'était à refaire, et si vous pouviez choisir entre Favières et Paris?
Mais oui, mais on ne pouvait pas choisir, puisque c'est la guerre.
Bien sûr.
C'est ça. Oh, après, j'y serais bien retournée, mais je me suis mariée, puis ma foi, je suis restée ici, puis voilà, une fois que j'ai été mariée, j'étais un fil à la patte. Hein.
Et vous vivez donc toujours aujourd'hui à Favières, dans cette maison typiquement lorraine. Et on pourrait peut-être parler du salon dans lequel nous sommes, car il est très intéressant. Parlez-nous de ces lits, par exemple.
Ben, c'était des lits, c'était...
Je sais, ma question peut vous sembler triviale.
De maman, là. Et puis là, le pépère et la mémère.
Et ça, ce sont des lits typiquement lorrains.
Oh oui, c'est typiquement lorrain, ça, oui.
Ils sont carrément encastrés, en fait, dans les murs.
Encastrés dans le mur, oui.
Et on peut les fermer complètement, puisqu'il y a devant de grands rideaux.
Oui.
Et entre les deux lits, c'est une sorte de placard.
Ça, c'est du temps de ma mère, ça. Hein. C'était du temps de ma mère. Elle y avait une commode toilette. Hein. Alors, il y avait toujours le dessus, vous savez, avec la cuvette. Et elle prenait de l'eau de nos bouillottes pour nous mettre là. Elle nous le faisait laver là. Ça fait qu'on avait encore de l'eau douce pour se laver.
C'était une petite salle de bain, finalement, entre les deux lits.
Disons, un petit cabinet de toilette, quoi, mais enfin, oui, c'était comme ça. Maintenant, c'est l'aspirateur, c'est les balais qu'on met là.
Merci en tout cas, Hélène, de m'avoir reçue chez vous pour cette discussion très intéressante. Alors, y a-t-il d'autres personnes, d'après vous, que je pourrais rencontrer à Favières? Et qui pourraient me parler de l'histoire du village, oui, de l'histoire ancienne.
Le village, je ne connais pas, il y avait bien M. Michelet, mais qui est mort. L'histoire du village, la Vauvonne qui connaît là-haut, le haut de Favières, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire.
Et avant de nous séparer, est-ce que vous pourriez nous chanter une autre chanson de votre enfance?
Quoi chanter?
Oui, j'aime bien vous entendre chanter.
Que j'ai pas de voix, rien du tout, n'ai plus de voix, n'ai plus rien du tout.
Il n'y a rien qui vous revient en tête?
Camper Guillory.
Hein?
Camper Guillory.
Pas.
Vous connaissez pas?
Non, bah justement, je veux entendre.
Il était un petit homme qui s'appelait Guillory Carabi. Il allait à la chasse au perdri Carabi, Titi Carabi, Toto Carabo, grand-père Guillory. Me l'airas-tu, me l'airas-tu, me l'airas-tu, mourir. Il allait à la chasse au perdri Carabi. Il monta sur un arbre pour voir ses chiens courir Carabi, Titi Carabi, Toto Carabo, grand-père Guillory. Me l'airas-tu, me l'airas-tu, me l'airas-tu, mourir. La branche se rompit et Guillory tombit Carabi. Les dames de la ville sont accourues au bruit Carabi, Titi Carabi, Toto Carabo, grand-père Guillory. Me l'airas-tu, me l'airas-tu, me l'airas-tu, mourir. Les dames de la ville sont accourues au bruit Carabi. L'une apportait du linge, l'autre de la charpie Carabi, Titi Carabi, Toto Carabo, grand-père Guillory. Me l'airas-tu, me l'airas-tu, me l'airas-tu, mourir. Pour remercier ces dames, Guillory les embrassit Carabi. Ça prouve que par les femmes, l'homme est toujours guéri, Carabi, Titi, Carabi, Toto, Carabo, compère Guillory. Me l'airas-tu, me l'airas-tu, me l'airas-tu, mourir.
Merci Hélène.
Voilà.
Il y a sûrement des pays qui valent le coup. Il y a sûrement des routes qui mènent un peu partout. Don't.